Et vous écoutez France Culture. J'ai essayé de dérombiériser le musée. Guy Cocheval. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui, en ce samedi, a installé son bivouac dans la salle de l'horloge du musée d'Orsay, 30 ans d'âge désormais. L'occasion pour nous d'évoquer un aspect méconnu de son fonds richissime, inspecté et catalogué par le trio Plonk et Replonk dans un savant album paru chez Futuropolis. L'occasion également d'évoquer la lecture steampunk du spectaculaire Second Empire, à qui une spectaculaire exposition est consacrée à Orsay jusqu'au 16 janvier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Mauvais Genre, bienvenue au musée d'Orsay. Je vous applaudis, vous nous applaudissez, le monde est formidable. Quel monde extraordinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, on est là pour fêter le musée d'Orsay. C'est bien la moindre des choses puisque on doit ce musée, et surtout depuis que Guy Cocheval en assume la direction et la présidence, eh bien, des émotions fortes. On va en parler avec vous, Céline Duchesnay. Je salue dorénavant nos invités. Miguel Morales de Plonk et Replonk. Bonjour. On l'applaudit. Bonjour.
Hello.
Hello, hello. Alors, Miguel Morales, historien d'art, spécialiste en muséologie, à qui l'on doit, avec ses deux complices Froidevaux, donc ce catalogue de l'exposition Hippolyte de Lapnée, on va en savoir un peu plus. C'est une véritable redécouverte scientifique du musée d'Orsay. À sa droite, on applaudit Étienne Barillet.
Bonsoir.
Étienne Barillet, Monsieur Steampunk, en témoigne cet ouvrage, paru aux éditions Mnemos Ouroboros, donc la découverte de la France steampunk. Qu'est-ce que le steampunk? De quoi est-il fait? Et pourquoi Étienne Barillet est-il là? On va savoir un peu plus tout au long de l'émission. Je serai avec Céline Duchesnay. Bonsoir Céline.
Bonsoir François.
Céline Duchesnay, qui a été rejointe en ce tout début d'émission par une de ses grandes amies et complices. On peut en dire quelques mots puisque elle donc déambulait parmi nous, accompagnée de deux robustes guides.
Eh bien, nous venons de voir passer Déborah de Robertis, qui est d'ailleurs, je pense, cachée là derrière une colonne.
Déborah.
Ce qui n'est pas trop son genre, d'ailleurs, d'être cachée. Déborah de Robertis, qui est donc performeuse, artiste, qui questionne le corps de la femme, qui questionne aussi le corps nu de la femme quand elle est, je dirais, modèle. Et elle est là, sous nos yeux, je dirais quasi nue, et elle délivre un prospectus que je vais vous lire pour fêter les 30 ans d'Orsay. Aucune tenue n'est exigée, ou presque. La preuve, la voilà nue dans un grand... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Dans un...
Elle est un peu loin pour nous répondre.
Dans un grand drapé bleu où il y a marqué « Musée d'Orsay, 30 ans ». Avec de superbes chaussures argentées, très style Déborah de Robertis. Bienvenue Déborah.
Bienvenue pour cette origine du musée. Voilà donc ce soir la collection Hippolyte de Lapnée, une autre manière de voir et peut-être de voir enfin véritablement le musée d'Orsay. Et puis le Second Empire, Orsay et le steampunk en deuxième temps d'émission. Commencer avec vous, Céline Duchesnay, par une présentation du musée d'Orsay, mais sous un angle qui n'est pas, je dirais, un angle habituel, puisque c'est l'angle mauvais genre. Le musée d'Orsay, avec des expositions comme Sade, comme la prostitution, misère de la prostitution, nous a réservé des surprises ô combien excitantes depuis toutes ces années. Elles sont dues à quelqu'un. Cette personne, je l'ai citée en ouverture d'émission. On peut le reciter. Donc, c'est son directeur et président, Guy Cocheval, que vous avez rencontré.
Oui, que j'ai rencontré, mais avant même de d'entendre la voix de Guy Cogéval. Il faudrait quand même savoir que la question du mauvais genre au musée d'Orsay est absolument une évidence. Parce que d'emblée, l'expression même de mauvais genre, avoir bon genre, avoir mauvais genre, c'est un pur produit du 19e siècle, comme toutes les œuvres que vous voyez ici, qui sont donc portées dans le sein de musée d'Orsay. Donc l'expression date de 1835. Elle est attestée pour la première fois chez Balzac, un affamé de bon genre, comme chacun le sait, au point de vouloir s'anoblir, et qui s'est beaucoup intéressé donc au rapport entre le langage et le statut social. Alors une fois ce petit point linguistique effectué, nous l'avons compris, impossible de parler du 19e siècle sans se confronter à la question du genre, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, et il est très facile finalement de se promener dans ce musée avec un œil un peu torve et en regardant un certain nombre d'œuvres qui pourraient être dites de mauvais genre. Alors le premier tableau moi, auquel je pense est un tableau qui s'appelle Fléau, qui est en fait un tableau de Henri Camille d'Angers, qui date de 1901 et qui est visible, selon mes sources, en salle 59, qui représente vraiment un décor complètement apocalyptique. Vous avez des ruines, vous avez des corps démembrés, des flammes, des corps sanguinolents, vous avez un ciel totalement obscur avec au fond une sorte de horde de corbeaux qui partent à tire-d'aile. Et au premier plan, un homme complètement nu, disproportionné, une sorte de Hulk de fin de siècle, avec le front bas, avec l'œil terne, et qui porte dans sa main un énorme gourdin. Alors ça nous donne vraiment une impression un peu assez kitsch et qui peut peut-être même provoquer un certain trouble à la vue de ce redoutable bâton. En tout cas, c'est une œuvre qui a été acquise en 2013 et qui marque justement une des lignes d'acquisition de Guy Cogéval, qui a toujours cherché à acquérir des œuvres un peu hors normes, et qui a d'ailleurs été présentée dans l'exposition Masculin. Donc à nous maintenant de retrouver Guy Cogéval, président du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie depuis 2008, a-t-il vraiment fait basculer le musée d'Orsay dans le mauvais genre ?
Je pense avoir fait basculer le musée d'Orsay du côté d'un intérêt pour des sujets adultes, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'était un musée qui avait été créé pour créer des chiasmes et pour créer des contrastes entre les périodes, pour créer des réflexions. Et c'est un musée qui était devenu bêtement un musée des beaux-arts, avec l'impressionnisme, l'académisme qui était puni à un étage inférieur, l'impressionnisme auquel était réservé l'étage supérieur, et puis on n'avait pas vraiment réfléchi à une répartition réelle des collections. J'ai essayé de dérombiériser le musée d'Orsay, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas en faire un lieu où les conférencières d'un certain âge, entre 60 et 70 ans, viennent et voient des choses qui paraissent évidentes, mais au contraire de surprendre. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai eu des personnes assez âgées, qui ont l'air de personnes très conservatrices, et au contraire qui sont là pour être, pour voir des choses comme des expos Fantin-Latour ou des expos qui vont de soi, et qui ont adoré l'expo masculin, qui ont adoré l'expo SAD, qui sont venus exprès pour voir l'expo sur Splendeur et Misère, qui ont adoré ça. Toutes les expos que j'ai faites, qui paraissait borderline, qui paraissait edgy, qui paraissait un petit peu sur le bord de la feuille où il ne faut pas aller, ont eu au moins entre 400 et 500 000 visiteurs. Donc ça veut dire que j'ai trouvé le vrai ton pour parler à toutes les personnes, parce que vous ne faites pas une expo simplement pour les rombières ou pour des jeunes ou pour des gens qui sont au-delà du miroir. Mais vous faites des expos pour toutes ces personnes, et j'ai toujours fait au-dessus de 400 000 visiteurs, ce qui est énorme.
Voilà, Guy Cogéval à votre micro, Céline Duchesnay, des sujets enfin adultes, éviter la dérive musée des beaux-arts, et surtout ce concept que j'adore, on va en parler avec nos invités, de dérombiérisation du musée. La preuve en est, 400 000 visiteurs, ça a l'air de marcher, la dérombiérisation, Céline.
Ah, mais moi j'ai plus envie tout à coup, comme on est dans notre thématique mauvais genre, d'évoquer quelques souvenirs mauvais genre, justement liés à ces expositions. Alors, il y a notamment eu Splendeur et misère, image de la prostitution de 1850 à 1910, avec un commissariat qui était assuré par Isolde Pludermacker et Marie Robert. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette exposition, mais il y avait un rideau rouge à un moment donné. Une pièce était fermée par un rideau qu'on imagine je ne sais pas si c'est après moi mon souvenir ou pas, en tout cas en velours rouge. Et si vous ouvriez ce rideau, derrière, vous pouviez vous retrouver dans une, je dirais, dans la posture de quelqu'un qui a une pratique solitaire. Vous aviez une série de visionneuses.
Ça veut dire quoi?
La pratique solitaire. Bah, écoutez, une série de visionneuses avec un système de lunettes stéréoscopiques pour voir des images pornographiques en 3D. Oh. Donc chacun dans son coin pour regarder des images évidemment historiques du début du XXe siècle. Et donc vous vous retrouviez comme ça à consommer des images comme les clients de l'époque. Et
alors
si vous continuez cette petite promenade derrière le rideau rouge, il y avait une deuxième pièce où étaient projetés des films pornographiques du début du XXe siècle. Alors il y avait des choses, je dirais, des scènes grivoises à caractère piquant, comme par exemple mondaines au bain, ou vraiment de purs produits pornographiques historique du début du XXe siècle. Et je dois dire que quand même la situation était pour le moins mauvais genre. Vous vous retrouvez avec de parfaits inconnus en train de regarder un film pornographique. C'est pas la première chose à laquelle vous pensez quand vous déambulez dans un musée. Donc finalement, moi, ma question, c'est de me dire qu'est-ce qui était finalement le plus mauvais genre. C'était les œuvres en tant que telles ou alors la posture dans laquelle vous trouviez à regarder des choses acrobatiques en compagnie de parfaits inconnus.
On posait la question à nos invités. Qu'est-ce qui est plus mauvais genre, Miguel Morales? Regarder, ou la posture, ou le fait d'être entouré d'inconnus?
C'est d'ignorer qu'il se passe quelque chose. Et de partir tout de suite.
C'est-à-dire?
De ne pas participer, du tout.
Ça aurait été dommage, cela dit, il y avait des jolies choses à regarder.
Probablement, avec le recul historique, ça doit être
tout
encore plus piquant.
Tout ceci est historique, oui.
Ouais. Étienne Barrier?
Moi, je ne savais pas qu'il fallait ouvrir le rideau.
Ah bon, vous êtes resté devant?
Ah, quel innocent.
Donc, vous attendez que l'exposition soit redonnée quelque part pour en savoir un peu plus. En tout cas, notre gratitude présente, passée et future au musée d'Orsay qui nous a donc offert tant d'occasions de sombrer, mais au contraire, d'accomplir des visites mauvais genre. Crocodile par Amina, choix de Laurent Polleret pour notre mauvais genre de ce soir, installé au musée d'Orsay dans la salle de l'horloge pour le 30e anniversaire donc de son histoire. On a invité ce soir, quel horrible mot, convoqué deux éminents représentants de la discipline artistique. Le premier, c'est donc Miguel Morales, rebonjour.
Rebonjour.
Un des membres du trio Plonk et Replonk. On va d'abord, très rapidement, Céline, en dire un peu plus sur le trio pour que nos auditeurs et nos spectateurs comprennent bien ce qui va se passer ensuite.
Eh bien, Plonk et Replonk, c'est donc un binôme tricéphale. Il y a deux frères, Jacques et Hubert Froidevaux, et donc vous-même, Miguel Morales, ici présent. C'est un groupe d'éditeurs déclaré d'inutilité publique depuis 1995. Vous êtes en Suisse, dans les montagnes du Jura suisse. Et en fait, Plonk et Replonk se sont taillés une place enviable dans le commerce et l'art du détournement de la carte postale ancienne depuis donc 1995. Donc vous regardez ces cartes postales, ce sont des cartes postales belle époque qui au départ paraissent bien innocentes sous leur couleur pastel. Et puis, à y regarder de plus près, à coup de trucage, photomontage et jeu de mots, force est de constater la bizarrerie absolue qui se dégage de ces images et qui nous pousse à des interprétations aussi floues que mystérieuses. Il suffit de voir les titres, souvent de vos cartes postales, métier d'antan, les baffeurs de requins, chute d'un cumulonimbus essoufflé, à vous, à près d'imaginer le type de paysages qui peuvent accompagner ce genre de titre mystérieux. Voilà de quoi évoquer un petit peu l'univers de Plonk et Replonk. Mais il y a aussi des autocollants, il y a des calendriers.
Les autocollants, vous en avez quelques-uns sous les yeux. Les cartes postales, nous en avons amené quelques-unes. Toujours important d'avoir des documents sous la main pour évoquer Plonk et Replonk. Alors avec vous, on va donc en savoir un peu plus sur le fond du musée d'Orsay, Miguel Morales, avec cet album richement illustré, comme on dit toujours, qui paraît aux éditions Futuropolis, l'art d'en bas au musée d'Orsay. Et je lis le bandeau qui accompagne le volume. Pour fêter dignement cet âge de la maturité, Plonk et Replonk vous offrent les réserves du musée et leurs œuvres les plus secrètes. Parce qu'en effet, vous nous avez permis de renouer avec un peu l'histoire secrète du musée, l'histoire secrète de l'art en France, et surtout du 19e siècle, en redécouvrant grâce à Gontran le Rebulfier, la collection Hippolyte de Lapnay. Alors d'abord, Miguel Morales, quelques précisions sur le mystérieux Hippolyte de Lapnay.
Alors Hippolyte de Lapnay est une figure tout à fait intéressante, parce que c'était une sorte de magnat de l'industrie. À l'époque, il a vendu toutes sortes de choses invraisemblables. N'oublions pas que c'était une époque de transformation, l'industrie perçait, la fumée des locomotives vous arrivait dans le nez, les affaires prospéraient pour qui savait y faire. Hippolyte de Lapnay a très bien su y faire. Par contre, alors, il y a un côté du personnage qui est extrêmement intéressant, c'est que c'était un collectionneur d'art. Et c'était un collectionneur d'art qui emmerdait l'officialité, qui n'en faisait qu'à sa tête, et qui privilégiait un petit peu les seconds couteaux. Des gens qui étaient généralement un tout petit peu raillés par la critique officielle, en ce sens qu'ils étaient des admirateurs tout à fait sensibles de l'œuvre de ces titans de la peinture qui sévissaient à l'époque. Ils étaient eux-mêmes extrêmement doués, et ils ont juste commis l'erreur de se mettre à l'ombre de ces peintres adulés aujourd'hui. Et en fait, Hippolyte de Lapnay a collectionné ces gens, en a fait don à l'époque au musée du Luxembourg, et cette collection a été occultée. C'était un scandale absolument incroyable. Occultée, ça nous est passé sous le nez, personne n'était au courant.
Et, en 1910,
Hippolyte de Lapnay a été
fait don de sa collection. Ouais, l'a-t-on occulté?
Alors,
assez vite, en 1911.
D'une part, peut-être qu'il y a eu politiquement un tiraillement. Aussi, la culture officielle était ce qu'elle était. Il fallait pas aller trop à gauche, pas aller trop à droite. Ce monsieur était en avance sur son temps, dans ses goûts, dans ses choix. Et d'autre part, probablement que Hippolyte de Lapnay s'est fait de nombreux ennemis. Le leg qu'il a fait, probablement qu'il savait qu'il ne serait pas montré avant très longtemps, mais il avait juste envie d'emmerder le monde. Voilà.
Voilà, on lui en est reconnaissant, mais c'est escompté sans Gontran le Rebulfier, donc qui était responsable de la champignonnière du Luxembourg, et qui lui, un jour, met la main sur le trésor.
Voilà. C'est un monsieur qui n'a pas eu beaucoup de chance, parce que, après avoir été une sorte de hippie un peu largué, comme beaucoup de gens à cette époque-là, ce monsieur est rentré dans le rang, il a fait carrière, il a grimpé toutes sortes d'échelons, et à un moment donné, quand il s'occupait de la champignonnière du palais du Luxembourg, il est tombé sur ce trésor qui était caché, et il a eu en fait le malheur de le découvrir, de le porter...
Alors il était caché où, et il l'a découvert comment? Parce que là, ça devient mystérieux, il y a une aventure.
C'est un petit peu comme imaginer un égyptologue qui arrive dans un endroit où personne n'a jamais mis les pieds. Vous arrivez dans une cache secrète en dessous du palais du Luxembourg et vous tombez sur un truc scellé, enfin une boîte, un box.
Une sorte d'urne géante.
Exactement. Et dans cette urne, vous avez une collection de toiles.
1982.
Absolument incroyable, voilà. Et ça n'a pas beaucoup plu en eu lieu parce que probablement qu'on aurait voulu dissimuler encore un tout petit peu plus longtemps cette trouvaille. Et le pauvre le Rebulfier a eu quelques petits soucis de carrière.
La collection de Lapnay qui a donc été occultée, dérobée en 1911, redécouverte en 1982 et confiée en 1986 dès son ouverture au musée d'Orsay.
Voilà. Et le temps que quelque part on s'intéresse à cet objet-là, parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter, eh bien il s'est encore écoulé un certain nombre d'années et enfin...
Grâce à ce catalogue scientifique extrêmement rigoureux, on peut enfin découvrir la collection de Lapnay et vraiment, on vous en remercie. Alors, on va la visiter avec vous, n'est-ce pas, auditeurs, spectateurs, avec vous Céline et avec vous donc Miguel et Étienne. On va voir un petit peu ce qui est les chefs-d'œuvre saillants. Alors Céline, je vous laisse la parole pour la découverte d'un premier chef-d'œuvre de la collection, donc Hippolyte de Lapnay.
Eh bien, oui, moi j'ai choisi la leçon d'anatomie de Ciro Cofredi, qui date de 1899 et qui est donc une peinture. Alors je vois pinceau à sec sur enduit lascif. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur ce peintre de Ciro Cofredi ?
Alors il avait un très long pinceau, déjà, d'une taille redoutable, qu'il utilisait fréquemment. Voilà, il l'agitait dans tous les sens et ça donnait des toiles assez pâteuses, je crois. Voilà. D'autre part, cette toile est intéressante en ce qu'elle montre en fait un modèle en train de peindre son peintre, ce qui est relativement rare dans l'art du XIXe siècle.
Et un modèle qu'il a fini par épouser.
Oui, voilà, c'est une histoire qui finit bien, en tout bien tout honneur.
Alors, autre chef-d'œuvre, déjà dès le départ, l'arrachage des mauvaises herbes de Alphonse Blédur, dont on précise quand même qu'il est mort à 101 ans d'une crise de daltonisme. Alors là, ça n'est pas sans faire penser à une toile célèbre, mais si on observe bien, ça n'a rien à voir.
Absolument rien à voir. Traiter des coquelicots de mauvaises herbes, ça ne viendrait à l'idée de personne, franchement.
Et sinon, j'ai aussi noté, alors l'œuvre sculptée, là c'est tout à fait différent, de Germain de Missel, La Motte, de 1872. Alors c'est un travail à même la motte de beurre.
Voilà.
On peut en expliquer à la fois la technique et l'origine, puisque la sculpture sur motte de beurre, sculpture directe, attention, est quelque chose d'assez original et de peu connu.
Alors la sculpture sur motte de beurre était une technique qui a été développée par les bergers des Alpes suisses, qui s'ennuyaient d'une manière atroce, là-haut, perdus dans l'hébétude de leur altitude, surtout sans part d'attraction, sans amusement, sans attelle. Enfin bref, c'est une catastrophe, aucun écran. Donc il fallait bien faire quelque chose.
France Culture se capte mal, donc la détresse morale de ces gens était totale.
La détresse morale, oui, ça, c'était terrible. Mais il fallait bien faire quelque chose. Donc, avec tout le beurre qu'ils produisaient, n'est-ce pas, un peu inutilement, parce qu'ils n'avaient même pas le temps de descendre pour le vendre en ville, puisqu'ils étaient si loin des villes et que les communications étaient minables, eh bien, ils ont fait de l'art, finalement. À force de s'ennuyer, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Eh ben, on le sculpte. Et c'est un miracle que cette sculpture ait survécu jusqu'à nos jours, parce que d'habitude, le beurre, ça tient pas vraiment la route.
Et là, c'est une femme nue, largement épanouie, avec à côté le petit couteau à beurre, qui doit être l'objet qui permet à l'artiste de travailler sans matériau.
Son matériau directement, et je crois qu'il devait y avoir une sorte de sensualité inhérente à cet acte délicat d'enlever le beurre qui se perpétue aujourd'hui dans la confection de tartines le matin.
D'autant plus qu'une œuvre pareille doit être préservée par une température constante, extrêmement basse, donc n'importe quel musée ne peut pas
conserver. Vous connaissez la Suisse ?
Relativement.
Alors voilà,
bien.
Tout s'explique.
Céline.
Alors il y a des destins tragiques aussi. Moi, j'aimerais que vous évoquiez celui d'Alfred Glouton. Donc nous avons deux peintures de ce peintre. Il était une fois dans la forêt profonde, 1893, où on voit un groupe de gens avec des petits bonnets rouges et des barbes blanches et une jeune femme que l'on pourrait confondre avec Blanche-Neige d'ailleurs, qui se regroupe et qui chante et font de la musique dans la forêt. Et puis peut-être une œuvre qui nous met un petit peu sur la piste du destin tragique Alfred Glouton, qui est même pas peur, où on voit une femme qui tient les mains d'un homme, l'un et l'autre ont l'air très amoureux, et leur ombre nous met sur une piste assez incroyable, puisque l'ombre du visage de l'homme est un loup-garou, et l'ombre du visage de la femme est absolument crêtée. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter le destin, enfin le tragique destin vraiment d'Alfred Glouton ?
Je pense que à ce moment-là, il a compris la nature profonde des relations entre hommes et femmes, et que ça lui a suffi. Donc, il a pu disparaître totalement par la suite. Une fois qu'on voit ça, eh bien, on reste célibataire peut-être, ou alors on meurt, je pense.
Enfin, quand même, vous pourriez nous rappeler la manière dont il est mort. Il n'est pas mort de manière... Vous voulez que je vous lise votre notice, peut-être
S'il vous plaît.
Alors, le peintre... Donc, en quelques mois, le succès fut au rendez-vous. Mais le peintre en avait cure et devint de plus en plus, en secret, soucieux. On pouvait l'apercevoir dans la rue, se racontant des histoires à lui-même à voix basse. Puis il s'enferma dans son atelier pendant une semaine. Quand ses voisins le découvrirent mort un petit matin, il baignait dans son sang, devant cette toile inachevée dont il racontait qu'elle lui donnait des cauchemars. Ses cheveux brutalement blanchis, son corps lacéré de griffures et les traces de crocs sur sa gorge témoignaient d'une furie monstrueuse. Son grand-père l'avait pourtant mis en garde contre les dangers de certaines thématiques.
Eh bien, ça ressemble véritablement à un film de la Hammer, ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce monsieur avait beaucoup d'imagination et probablement qu'il était un tout petit peu torturé. Voilà. Je lui conseillerais, s'il était encore de ce monde, de se faire traiter.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Alors, Miguel Morales, continuons la découverte de cette collection Hippolyte de l'apnée, grâce à vous redécouverte au travers de ce très bel album chez Futuropolis. Alors moi, il y a une œuvre qui me bouleverse, c'est une œuvre de 1863 de Paul-Georges Foidevaux. Et il s'agit de La folie des courses à Mornesillon sur Lisier, toile admirable qui représente effectivement, là je cite, dans une ligne droite sinueuse, délicate à négocier sur une pente à 4 degrés, non loin du lieu dit la Vermoulue, l'attelage du gros Louis prend une avance décisive sur celui de Petit Méchant, victime d'un soc crevé. On imagine le délire collectif qui s'emparait des foules clairsemées lorsque, surexcités, les placides bovidés passaient au ralenti devant les tribunes officielles plongées dans la torpeur. Vous voyez, c'est effectivement un très très bel exemple de ce que l'on appelle, je dirais, les sports bovins dans les campagnes de l'ancienne France du 19e siècle. Alors là, c'est pareil, ça reprend quand même, c'est un témoignage sur ce que furent les campagnes françaises et peut-être avec une forme de sociabilité qu'on a un peu oubliée.
Exactement. La course d'attelage se pratiquait facilement. Plus tard, on a fait du tracteur pulling. C'est un petit peu la version moderne, mais il n'y a pas le charme des bœufs en train de... qui pour une fois sont sur le terrain, est-ce qu'ils sont sur le terrain? Ils sont sur le terrain, bien sûr. Ils pataugent dans la boue, ils travaillent très dur. En fait, le sport tel qu'il était à l'époque était beaucoup plus naturel. Mais on retrouve un petit peu le même fonctionnement de nos jours, je crois, autour des stades et dans les stades.
Étienne Barillet, c'est un peu trop rural pour vous. Vous êtes plutôt un homme du 19e siècle urbain. Alors les courses d'attelage, les sculptures sur motte de beurre, ça manque un peu de graisse de machine et de piston de...
Non, je suis un Limousin d'origine. Donc au contraire, cela me parle et ça me rappelle quantité de souvenirs d'enfance dont je vous remercie.
Vous avez déjà de vous-même un petit peu perturbé, je dirais, l'ordonnance d'œuvres célèbres dans le milieu du steampunk, ça se pratique ça
de... Oui, ça se pratique par le biais de détournements et de parodies, mais on est plutôt dans le très gros clin d'œil. Ici, il y a une subtilité.
Là, il n'y a pas de clin d'œil.
Et un goût du non-sens. Supplémentaire.
Céline.
Mais tout de même, moi, j'aimerais revenir sur Hippolyte de l'apnée, donc ce grand collectionneur. Mm-hmm. Je trouve qu'à regarder toutes les peintures que nous avons pu retrouver, que se dessine aussi un portrait en creux de cet homme. Donc, si on feuillette, par exemple, le livre en pensant à Hippolyte de l'apnée, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de lui au niveau, par exemple, de son caractère, de ses choix, de ses petites manies, peut-être?
Moi, je pense que ce gars devait avoir des ongles très propres, mais en même temps, il devait se les laver souvent parce que je l'imagine assez sanguin. Je l'imagine bien tapant là où ça fait mal et défendant son point de vue envers et contre tous. C'est un petit peu un self-made man. Et il se mettait à dos tout le monde. On a retrouvé suffisamment de preuves de cela. Il se mettait à dos tout le monde, mais par contre, malgré la brutalité de son côté commercial, il avait une sensibilité, peut-être un peu féminine quelque part, allez savoir, une sensibilité qu'il mettait dans l'achat de ses tableaux. Et c'est assez paradoxal.
Il avait le coup de poing facile quand même.
Très facile.
Mauvais genre au musée d'Orsay dans la salle de l'horloge pour célébrer les 30 ans de cette noble institution. Et là, nous sommes livrés à nos délices de la découverte de cette collection Hippolyte de Lapenay. Alors, il faudrait s'arrêter devant chaque tableau redécouvert, donc formidable collection, et puis les décrire en détail. Par exemple, Théophraste Chassieux, la Réunion super vaseuse.
Mmh, oui.
Que Chassériau tenta désespérément de copier dans son épidarium, et là, en définitive, là, c'est beaucoup plus intéressant.
Disons qu'il s'était un peu, ouais, il s'était planté. On peut pas copier ça. La Réunion super vaseuse documente en fait les origines de ce qui aujourd'hui les réunions tupperwares. Ça se pratique avec des potiches. C'est pas pour parler de vous, mesdames, pas du tout. Des potiches en grès ou des potiches très lourdes, très peu pratiques, mais c'était le début de quelque chose. C'était le début de cette vente directe entre naïades, entre voilà. C'était en même temps beau, familier et secret.
Secret. Céline.
Alors moi, je finirais bien sur un triomphe lacrymal, qui est donc une photographie qui s'appelle « Les ravages du roman à l'eau de rose » qui date de 1864, de Aude Musée-Lausanne, où l'on voit des lecteurs et des lectrices dans un bain de larmes.
Oui, comme quoi la lecture, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, surtout s'il y a du sentiment à l'intérieur, décliné sous plusieurs formes, surtout si l'auteur sait écrire des choses lacrymales, surtout si on a l'indécence de faire se rencontrer des hommes et des femmes. Généralement, il y a des pleurs à la fin. Voilà. Et vous voyez que les eaux montent. C'est une photographie d'un moment tragique dans la vie des Parisiens, tout simplement parce qu'il y a eu des quantités incroyables d'interventions des pompiers. Ça ruina pratiquement les pompiers de Paris, et ça fit disparaître également l'éponge endémique de la Seine qui avait été utilisée pour pomper toute cette eau. Voilà. Alors c'est une histoire qui est peu connue, mais je vous la révèle. Je suis assez fier de le faire ce soir ou ce matin.
On vous remercie que vous nous ayez réservé cette exclusivité. Moi, je clôturerai cette visite, bien sûr, par le tableau magnifique de Charles Zéro, les rédacteurs de l'Encyclopédie universelle du tricot en 10 volumes de 1890, qui montre ces hommes austères, rassemblés, et effectivement la noble rigueur, l'austérité de ce tableau est ponctuée par les couleurs des pelotes de laine, puisque n'est-ce pas, ce sont des spécialistes mondialement reconnus du tricot. Comment s'est passé le travail, Miguel Morales, d'abord au sein du trio Plomb qui replomb, comment pour créer cette collection Hippolyte de Lapenay, vous avez choisi comment les œuvres de départ, nous dirons.
Alors,
est-ce que vous avez travaillé main dans la main, j'imagine?
Oui, on a pied dans le pied également.
Voilà, bras dessus avec la direction du musée d'Orsay.
Tout à fait, on est très contents, enfin très très fiers, c'était extrêmement sympathique. On s'est senti à peu près comme des gamins devant à qui on aurait donné les clés de l'armoire avec les pots de miel dedans. Voyons quel pot de miel ouvrir, comment le goûter. Alors, on s'est partagé les pots de miel, si vous voulez. On s'est beaucoup baladé, bien sûr. On a beaucoup regardé les collections. Et en fait, on s'est laissé inspirer par ce qu'on a croisé, ce qu'on a vu. Dans un premier temps, c'est pas forcément les choses les plus célèbres qui nous ont sauté aux yeux, parce que nous avons eu une sorte de passion pour les pompiers, n'est-ce pas ? Qui ont ce côté spectaculaire, c'est du cinéma avant l'heure, c'est de la télévision, c'est de l'écran. On vous en met plein la vue, on montre ce qu'on sait faire. Il y a un côté, il y a du panache, quoi. C'est du grand spectacle. Et en plus, il y a une vérité photographique qui, dans un premier temps, est plus facile à traiter parce qu'on peut mélanger diverses choses et intervenir plus facilement. Alors qu'après, avec plus de délicatesse, on peut s'attaquer aux impressionnistes, mais ça demande une autre approche.
L'art d'en bas, Orsay à 30 ans, donc une coédition entre le musée d'Orsay et puis les éditions Futuropolis, la découverte de la collection Hippolyte de Lapenay grâce au trio Plonk et Replonk. London, Shinmo Amobi, un choix de Laurent Polleret pour évoquer, alors là on passe à notre deuxième sujet de ce soir dans Mauvais Genre, la question du steampunk. Alors le morceau s'appelle London, c'est vrai que London plus que Paris, Étienne Barillet, c'est la ville du steampunk, mais toutes les grandes capitales européennes du 19e siècle, Londres, Paris, Berlin, peuvent être des métropoles steampunk et des capitales mondiales du steampunk, puisque d'abord on va donner une définition du terme, on va rappeler ce que c'est, et puis on va en situer la dimension urbaine et parisienne. Étienne Barillet.
Et Madrid, Mexico, le steampunk est un mouvement culturel et artistique universel. Si on devait le redéfinir d'un mot, on ne peut qu'utiliser la belle formule de Douglas Fetherling. Le steampunk imagine ce que serait devenu le passé si le futur était arrivé plus tôt.
Ben voilà, c'est parfait, c'est très bien. À se souvenir et à mémoriser, tout est là.
Donc si on devait traduire, c'est simplement que le steampunk, c'est une uchronie. On imagine une histoire alternative, que se serait-il passé si et si on avait inventé l'ordinateur à la fin du 19e siècle. Mais c'est une uchronie qui est faite par des mauvais garçons, par des punks. Donc on va un peu casser tout ça, ajouter des éléments de science-fiction, des éléments de science-fiction, de fantastique ou de policier. Et au final, on obtient un cocktail un peu étonnant et détonnant dans lequel eh bien, vous pouvez raconter une histoire où le capitaine Nemo va finir par croiser la route de Jules Verne. Donc les miroirs se répondent.
Alors, au musée d'Orsay, jusqu'au 16 janvier, on peut voir une exposition, l'adjectif n'est pas volé, spectaculaire. Spectaculaire Second Empire, qui montre le Second Empire dans tout son épanouissement, son opulence, son face, sa richesse, à la fois la manière de montrer, la manière d'en rajouter sur le spectacle. Guy Cocheval, dans son texte d'ouverture, parle d'une hypertrophie du visible. En effet, pour les milliardaires de l'époque, pour ceux qui étaient les possédants, les riches possédants, les chefs, les personnalités clé, eh bien, il fallait montrer, il fallait que ça se voit, il fallait qu'on puisse apprécier la réussite sociale, la réussite économique et là, le plein emploi, mais en tout cas la réussite totale de cette société placée sous le signe du développement industriel. Alors, effectivement, quand vous vous promenez dans cette exposition, Étienne Barillet, vous revisitez ce qui peut être, je dirais, le matériau de départ du steampunk.
Le matériau de départ, c'est-à-dire on est à la source. Mais c'est une source historique qu'il s'agirait de transformer, de torturer un petit peu, de réinventer et de réenchanter, histoire qu'elle propose quelque chose qui nous parle avec une modernité accrue.
Alors, la fin du Second Empire semble plus tenter les amateurs de steampunk que le début, ce qui est assez curieux. Alors, il y a quand même une part importante, enfin, essentielle, qui est celle de Jules Verne dans l'esthétique steampunk, mais malgré tout, quand on voit la France steampunk que vous avez publiée chez Mnemos, c'est plutôt la fin. C'est-à-dire l'effondrement du Second Empire qui motive, je dirais, les membres de la communauté steampunk que la plénitude politique de ce régime.
Pour la France steampunk, si on devait raconter une histoire qui se déroulait sur un fond de grande aventure française à la fin du 19e siècle, autant la fixer sur la Commune et balancer nos personnages dans cette intrigue-là, alors que le monde entier, c'est-à-dire l'Europe, est en train de s'embraser autour d'eux avec des idéaux forts, des personnages extraordinaires et une réelle conscience que l'histoire est en train de basculer d'un côté ou de l'autre. On est à une période de gond où la porte peut s'ouvrir, ça peut se fermer. C'est une période excitante à manipuler. Peut-être que le Second Empire, d'un côté de l'imaginaire, on a les grandes campagnes, puis après on a on a Napoléon III. Mais est-ce que c'est vraiment une période où on va imaginer de grands bouleversements, une vie trépidante ou inquiétante dans les bas-fonds ? Je ne sais pas. Il est sûr que l'inspiration n'a pas été principalement, enfin n'a pas nourri les écrivains, les dessinateurs par rapport au Second Empire. On trouve quelques œuvres dont on pourra parler, mais la majorité va arriver à partir des années 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Donc c'est plutôt la Troisième République que le Second Empire, qui est toujours le domaine du musée d'Orsay. Céline Duchesnay.
Et d'ailleurs, l'exposition, comme elle parle du Second Empire, s'arrête en 1870, en effet. Donc il était intéressant aussi peut-être de se promener dans cette exposition en ayant un petit peu en tête ce monde vaporiste du steampunk et en, je dirais, en ressentant peut-être les premiers frissons ou les premières sensations vaporiste de l'exposition. Donc, évidemment, une exposition qui est plutôt une réhabilitation du Second Empire, mais là où peut-être on pouvait sentir poindre l'univers steampunk, je dirais, c'est peut-être plus au travers du rôle de la fête et des parures et surtout des costumes. Parce que je me souviens quand on s'était rencontrés l'année dernière autour du monde du steampunk, j'avais rencontré un certain nombre de vaporistes qui étaient très très pointus dans la manière dont ils faisaient leurs costumes, dans la manière dont ils le construisaient eux-mêmes avec ce côté punk qui est le do it yourself, donc des gens qui étaient capables entièrement de construire un costume qui correspondait à l'univers qu'ils voulaient défendre. Et alors quand vous vous promenez dans cette exposition, vous avez quand même, vous en avez plein les yeux au niveau des costumes, parce que l'impératrice Eugénie était quand même une grande fan des fêtes costumées. Il y avait évidemment, je crois, elle aimait beaucoup se travestir, se déguiser plutôt en Marie-Antoinette. Et peut-être que l'on pourrait se promener dans l'exposition avec ce goût du costume en tête, et puis aussi avec la présence de l'électricité, parce que l'électricité n'était pas encore présente dans les rues de Paris, mais par contre, dans les salons, dans ces bals costumés, il y avait vraiment cette illumination des uns et des autres, et je me disais, à défaut de retrouver les rouages, le laiton, le côté machine du steampunk, il y avait quand même ce côté magique de la lumière qui éclairait le tout.
Surtout que tous les germes, là si on parle d'un point de vue historique ou artistique, tous les germes de la fin du 19e siècle apparaissent durant le Second Empire. On va créer toutes les institutions qui vont former les scientifiques qui vont après permettre la révolution industrielle et l'essor technologique en France et en Europe.
Alors, si on essaie d'aller aux grandes figures qui marquent le steampunk et qui sont celles du 19e siècle, entre, je dirais, effectivement, le Second Empire et la Belle Époque, on a d'abord la figure de Jules Verne. Alors ça, Jules Verne, c'est évidemment le personnage central. Avec Wells, c'est un des deux pères fondateurs de l'esthétique et de la sensibilité steampunk. C'est un personnage clé du Second Empire, puisqu'il commence son œuvre en 1862 avec Hetzel. Il mourra en 1905 et en 1871, à l'époque où il sera douanier au Crotoir, là-bas, exilé, où il travaillera de ci, de ça, difficilement à 20 milieux sous les mers. Et le décollage romanesque de Jules Verne se fait sous le Second Empire, se fait à ce moment et se poursuivra par la suite.
Avec cette double ambition d'éduquer les foules et d'enseigner des choses et de transmettre tout un savoir, et tout en émerveillant et en imaginant un futur probable. On est dans le merveilleux scientifique, donc il essaye de penser 5 minutes dans le futur et de voir ce qui pourrait arriver prochainement. Donc c'est pour ça que nous sommes dans les germes du steampunk, mais que nous ne sommes pas dans le steampunk, parce que le steampunk est un genre très contemporain, et nous on sait ce qui s'est passé, on sait les évolutions, on connaît l'œuvre de Jules Verne. Donc le steampunk, c'est une démarche qui revisite l'esthétique du 19e, mais en connaissant notre propre culture, notre propre évolution. Donc on peut porter un regard sur Jules Verne, qui va être un regard à la fois de lecteur, de fan, parfois un regard critique, par rapport peut-être à certains passages de Jules Verne qui ont pu ennuyer pendant certaines descriptions, mais aussi un regard d'amoureux, parce que le Nautilus revient continuellement dans quantité d'œuvres, et il revient dans une forme de ricochet, parce que tantôt ça va être le Nautilus de Jules Verne, mais tantôt ça va être la réinvention du Nautilus par les studios Disney, qui sont quand même très loin de ce qu'il y a dans le texte. Donc des effets d'écho qui se font d'œuvre en œuvre, une espèce d'ombre tutélaire. Donc Jules Verne est cité, mais je crois aussi parce que tout le monde connaît Jules Verne dans le monde entier. On peut peut-être aller dans quantité de pays dans le monde et trouver quelqu'un et parler de Jules Verne avec cette personne qui connaîtra au moins le nom, à défaut de pouvoir connaître l'œuvre. C'est quand même dans l'histoire de la littérature les quelques auteurs qui ont un statut qui dépasse à tel point leur propre histoire, voire même leur propre biographie.
Alors nous sommes au musée d'Orsay, qui est une ancienne gare, et là on est au cœur de la problématique steampunk, parce que le steampunk fait son miel, je dirais plutôt son huile de machine, avec tout ce qui est l'ingénierie géniale du 19e siècle, les trouvailles technologiques, les inventions mécaniques, tout ce qui est de l'ordre du presque du futurisme industriel de l'époque. Et donc on est un peu au cœur même de vos problématiques, puisqu'avec la gigantesque coupole en acier, et puis alors nous sommes sommes juste le dos à l'horloge. Alors là, Étienne Barillet, vous êtes chez vous, là.
Là, je suis Hugo Cabret, ne peux pas être plus heureux. mais ce qui est fascinant, c'est que voilà, il y a cette horloge gigantesque qui fonctionne derrière nous. Nous avons le public devant nous et des gens qui passent également. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir que les gens qui arrivent sont surpris par cette horloge et ils la prennent en photo immédiatement. Ça veut dire que cette alliance entre l'acier, ces poutres apparentes, le mécanisme que l'on voit, le fait d'apercevoir Paris illuminé à travers, ça crée immédiatement une image, un choc visuel qui interpelle le public. Je ne pense pas que les gens connaissent tous le steampunk, mais là, nous avons une image qui est purement steampunk, une alliance entre le passé, le présent, pour créer une espèce de surprise visuelle, un choc esthétique.
Et on est en plein, donc, au cœur du steampunk, de par cette gare, cette ancienne gare devenue musée, le dos à une extraordinaire horloge, mais alors quand on regarde au travers de l'horloge, puisqu'il y a donc une vitre transparente, et on peut voir là le Paris qui est celui du steampunk, c'est-à-dire le Louvre, le Sacré-Cœur de Montmartre, et on peut même on est dans un axe visuel, un axe je dirais du regard qui est le Paris steampunk. Donc c'est peut-être le salon de l'horloge le lieu le plus steampunk de Paris.
Voilà, il manque simplement, il faudrait pouvoir déplacer un petit peu la Tour Eiffel pour pouvoir y amarrer quelques dirigeables, voilà, et ça serait impeccable.
On va proposer ça à Madame la maire de Paris. Alors effectivement, on évoque Londres, on évoque Berlin, toutes les grandes capitales européennes du 19e, mais c'est le Paris haussmannien qui est quand même le Paris le plus marqué par le steampunk, c'est-à-dire ce Paris qui explose de tous côtés, ce Paris qui est qu'on ouvre, qu'on éventre, qu'on reformule totalement dans sa géographie urbaine. Il y a un côté haussmannien aussi chez le steampunk.
Il y a le côté du Paris qui a disparu avec Haussmann et le Paris qui est devenu la ville lumière avec Haussmann. Donc le mouvement du passé vers une espèce de bond, vers la volonté de créer une capitale, au sens d'une capitale ordonnée, propre, et à travers laquelle les troupes peuvent circuler sans problème si jamais il y avait des soucis avec la population.
With a black scarf, she's obviously drunk and under influence or something, and she's been yelling and cussing out of passengers and just like harassing people, and I can see all my cap, and she's still doing that. Devil thing.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Céline Duchesnay.
J'ai à l'esprit une photo de la comtesse de Castiglione qui est présente justement dans cette exposition sur le Second Empire. Donc cette magnifique femme, célèbre espionne, maîtresse de Napoléon III, œuvre d'art vivante de par la manière dont elle s'habillait. Et lorsque l'on feuillette votre livre La France steampunk, les personnages qui apparaissent sont des personnages qui n'appartiennent pas du tout à la même classe sociale. Est-ce que le steampunk est fait avant tout avec des personnages qui correspondraient plus à des révolutionnaires ou alors qui correspondraient au bas-fond, mot que vous avez cité tout à l'heure?
Il correspond à des archétypes. Des archétypes qui sont sympathiques, joyeux, excitants, intéressants, motivants. Donc ça va être le héros, l'explorateur, le savant fou, le noble décadent, tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois, c'est une catégorie de personnages, on va dire, issus des grandes catégories de la littérature populaire, et que l'on va pouvoir réhabiter et réinterpréter d'une façon un peu différente. Le personnage du savant fou est un personnage passionnant en soi, mais qui est devenu terriblement ennuyeux. Un savant fou dans un film avec Daniel Craig est totalement inintéressant. Tandis qu'un savant fou dans un film avec Sean Connery est passionnant. Parce que notre regard a été usé. Et le steampunk reprend cette figure du savant fou et lui redonne une énergie supplémentaire parce que nous retournons vers le passé et on ose y ajouter des éléments contemporains. Donc à ce moment-là, tous les archétypes redeviennent manipulables et deviennent à nouveau plein d'une énergie que notre époque blasée avait peut-être un peu oubliée.
Alors en effet, le steampunk s'articule autour de toute une série de types de personnages. Effectivement, l'aventurier avec ses guêtres en cuir et son fusil à lunettes, le savant fou, effectivement hérissé de trouvailles de personnages tout à fait en proie aux démons de la technique. Mais la question que je me pose aussi, c'est que tout cela va quand même, on parlait de ce goût pour le steampunk, pour l'année 1871, c'est-à-dire pour l'effondrement du Second Empire, il y a quand même un goût dans le steampunk pour la catastrophe. Parce que la machine n'est jamais autant machine que ça, Jules Verne nous l'a bien montré, dont toutes les machines finissent dans le ravin ou au fond des mers. Jules Verne l'a bien montré, la machine n'est jamais autant elle-même, n'est jamais autant visible que quand elle explose ou que quand elle est la victime d'un accident.
Oui, mais pour Verne, peut-être que nous sommes encore dans le sensationnel du danger. Parce que la machine fascine encore, la science fascine encore. Le steampunk, lui, sait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il sait qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il sait que la science...
Il n'y a pas d'illusion sur la technique.
Voilà, la science peut tuer méthodiquement l'homme. Chose que Verne ne rêvait pas. Il y a des savants fous, il y a des méchants, mais à côté, il y a des bons, et il y a l'espoir que le lendemain sera peut-être encore meilleur. Et cet espoir-là, maintenant, on l'a un petit peu perdu. C'est pour ça que le steampunk s'arrête avec la Première Guerre mondiale, parce qu'on ne peut plus rêver la science après.
Céline Duchesnay.
On peut aussi rappeler la diversité des supports où le steampunk peut s'exprimer, parce qu'on le trouve au cinéma, dans la littérature, dans la bande dessinée. On le trouve aussi beaucoup dans les jeux de rôle, d'où l'importance des costumes dont je parlais tout à l'heure. Donc, différentes manières de vivre, d'avoir une vie steampunk.
Et on le retrouve aussi en musique, dans les arts plastiques, énormément dans la création vidéo et dans la création vidéoludique. C'est un art de la contamination. Donc vous allez pouvoir trouver des petites doses de steampunk parce que quelqu'un s'est dit « tiens, c'est cool de mettre quelqu'un avec un chapeau melon et des lunettes de soudeur dessus ». Mais aussi, il va y avoir des formes beaucoup plus denses et beaucoup plus appliquées qui, elles, vont aller beaucoup plus loin et proposer des choses nettement plus intéressantes.
Alors le steampunk brasse donc un matériau historique qui est celui du musée d'Orsay. Quelles œuvres pourrait-on citer, Étienne Barillet, pour justement à la rencontre, je dirais, de cet univers, si on l'ignore?
Monet, la gare Saint-Lazare, Caillebotte. Voilà, à 10 mètres de moi, il y a un Caillebotte qui est prêté spécialement par le Texas pour que je puisse le voir. Donc j'ai dit merci.
Merci le Texas.
Donc Manet, juste en dessous de nous, il va y avoir Courbet. Et Courbet qui est peut-être aujourd'hui peut-être qu'on le voit comme un classique, qu'on regarde son œuvre avec un académisme, qui pourtant était un fou furieux et qui cassait les codes comme un véritable punk à l'époque. Donc il y a cette vitalité-là qui est intéressante aussi à retrouver dans le regard. On a énormément de peintres chez les impressionnistes qui n'ont pas peint que des nénuphars, mais qui ont peint la modernité surgissante. Donc on a des gares, on a des villes, on a des brumes, on a énormément de fumée. Donc il y a toute une zone qui s'exprime. Hein, comme l'a pu la chanter Apollinaire.
Oui, parce qu'en effet, si on prend effectivement l'univers de l'impressionnisme, le deuxième, 19e siècle, on est confronté quand même plus à un spectacle naturel, à une présence, je veux dire, de personnages qui sont en dehors de tout apparat technique. On n'est pas du tout dans la technique pointe son nez, mais elle n'est pas encore totalement artistique. C'est Mallarmé qui disait que la tragédie est plus possible parce qu'on ne peut pas y faire entrer le mot revolver. C'est une phrase steampunk, ça. C'est-à-dire que les poutres en acier, les locomotives, si quand même, Turner, et puis certains Français, mais c'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Mais c'est justement ce mouvement de bascule, cette sensibilité émergente qui est touchante. Et qui nous parle également de notre époque. Parce que nous, quand on regarde cela, on peut se sentir concernés parce que qu'est-ce que nous avons perdu quand nous avons perdu l'émerveillement de la science? Qu'est-ce que nous avons perdu quand nous avons perdu l'émerveillement de l'objet? Quand nous avons perdu la sensation du plaisir d'avoir un beau tissu ou une belle matière. Ce que propose de jouer et de réactiver le steampunk, ce n'est pas la nostalgie d'un temps en se disant « c'était mieux avant », mais c'est plutôt la nostalgie d'un temps où peut-être les choses avaient plus leur place et que cette place-là avait un sens.
Dernier mot, Céline ?
Je reviendrai justement sur ce terme de punk qui me paraît essentiel. Steam, évidemment, la vapeur, punk. Je reviens aussi à cette idée du do it yourself. Et il y a quand même quelque chose qui va aussi contre la société de consommation, je trouve, dans la manière de tout faire soi-même.
Une éloge de la lenteur. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable. C'est pour ça là que tous les livres, tous les modèles qui ont participé aux illustrations du roman La France Steampunk, ils ont fait leur propre costume et on ne leur donnait pas de directive.
L'artisanat.
Voilà, la volonté de faire une création collective.
Merci Étienne Barillet donc pour cette présentation à la lumière du musée d'Orsay de l'univers du steampunk. On termine cette émission de Mauvais Genre, bien évidemment, avec Christophe Beer.
Né en 1902 à Singapour, John Alexander Coutts, alias John Willy, est le créateur de Gwendoline, l'incontestée star en détresse de l'illustration sadomasochiste d'après-guerre. L'éditeur forcément maniaque, héritier de cette œuvre, J.B. Rund, propose chez Bélier Press un livre somme sur le travail photographique de l'artiste, ainsi qu'une biographie détaillée. Possibilities raconte l'obsession fétichiste pour les femmes entravées que Willy, élevé en Angleterre, développe dès l'âge de 4 ans avec les récits pour enfants des Fairy Books peuplés de petites princesses en détresse. Adolescent, il s'éveille à l'attraction des hauts talons. En 1926, parti vivre à Sydney et y découvrant un magasin de chaussures dont une partie est réservée aux fétichistes, il prend conscience qu'il n'est pas un cas isolé. En 1934, à Brisbane, il rencontre sa future seconde épouse, Holly Anna Farham. Elle devient sa muse inspiratrice jusqu'en 1945, date à laquelle Willy s'exile pour les États-Unis dans l'espoir de créer sa revue Bizarre. À New York, puis à Los Angeles, il publie le sérial de Gwendoline, commercialise ses photos auprès d'Irving Claw, le débonnaire businessman de l'imagerie sadomaso, photographie quantité de modèles dont Judy Handel, attachée et bâillonnée, qui sera la première victime du serial killer Harvey Glattman. Willy, photographe, n'est assurément pas aussi talentueux que le dessinateur. Cependant, ses innombrables clichés noirs et blancs nous entraînent dans un univers sensuel et théâtral. Immobilisé dans des poses de douce violence, magnifié par les talons aiguilles, les robes fourreaux, les corsages ouverts, les corsets, ses héroïnes se contorsionnent, ficelées et complices, sur le tapis floral, écartelées en croix, alanguies, parfois implorantes. La période australienne est la plus intense. Sa compagne Holly vénère autant que Willy les chaussures acrobatiques, s'offre à toutes les fantaisies qu'il dessinera. Harnaché comme une jument de parade, aveuglé, le mort aux dents, ou les fines chevilles bottées et enchaînées. La complicité est totale. Nue, elle incarne une beauté fragile. Sa peau d'albâtre contraste avec les gants et les cuissardes en cuir verni noir. Hormis sa chevelure brune, la longiligne Holly fut la blonde et si complaisante Gwendoline, matérialisation d'un fantasme ensorcelant. Elle distille le troublant mystère de la soumission. Possibilities tourne délicatement les pages d'un masochisme glamour dont Willy fut le plus sincère acteur.
Merci Christophe Beer, merci Étienne Barillet, merci Miguel Morales d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre. Merci Céline. On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle les objets donc traités ce soir. Eh bien sûr, le Second Empire au travers du musée d'Orsay dont nous fêtions les 30 ans et je recommande tout particulièrement l'exposition spectaculaire Second Empire qui se tient au musée jusqu'au 16 janvier. Plomb qui replombe, dont Miguel Morales est un des membres. L'art d'en bas, le catalogue de l'exposition Hippolyte de l'Apnée, coédité par le Musée d'Orsay et Futuropolis, à ne pas rater. Puis bien sûr, de ne pas rater non plus le catalogue 2017 de Plonk et Replonk. Et puis pour l'univers du steampunk, la France steampunk chez Mnemos Ourobor. Et puis la Bible steampunk de Jeff Vandermeer chez Bragelonne. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Yann Frécy, Alex James, Yvan Charby, Jean-Christophe Perrier, Claire-Martin Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Christophe Huir et François Jolier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un autre Mauvais Genre où il sera question bien sûr de maisons hantées avec le gendarme tisané, chasseur de fantômes, de récits noirs, de bandes dessinées et de classiques hollywoodiens. D'ici là, nous retrouvons toujours aussi steampunk à Richardo pour Métronomique. Bonsoir à tous. Thank you.